Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'heure de la vérité vraie.
Faussaire, oui, c'est faussaire. Tu peux dire ce que tu voudras, c'est de la contrefaçon.
Tout est une copie d'une copie d'une copie.
Voleur ! Voleur ! Vous m'avez volé !
Non, monseigneur, je vous ai menti.
Responsable, mais pas coupable.
Bonjour à tous, je suis Alison Brabeck et vous écoutez le podcast accessible à tous sur le vrai du faux. Pour ce nouvel épisode sur le vrai du faux, nous allons vous révéler tout ce qu'il y a derrière la contrefaçon. Ce ne sont pas seulement des pertes pour le client, c'est aussi le trafic d'armes, la criminalité, la prostitution. Rencontre avec la personne la plus compétente sur ces questions, Madame Evelyne Capol, chef du bureau Stop Piracy, qui nous a accueillis très gentiment dans son bureau au sein de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, l'IPI, à Berne. Bonjour Madame Capol, merci beaucoup de nous recevoir dans vos bureaux.
Oui, voilà, bonjour.
Pourriez-vous vous présenter et votre parcours professionnel ?
Alors, avant de travailler à l'IPI, l'IPI c'est l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. J'ai travaillé chez USM, c'est une société de mobilier modulaire. Peut-être vous connaissez le système Aller. Et là, j'ai travaillé comme responsable du vente. Et maintenant, chez l'IPI, j'ai commencé à la communication et là, j'ai organisé des formations et des foires. Et depuis 3 ans maintenant, je suis la secrétaire centrale de la société Stop Piracy. C'est la plateforme suisse de lutte contre la contrefaçon et la piraterie.
Comment êtes-vous arrivée à travailler pour Stop Piracy? Comment vous êtes passée en fait de commerciale des meubles USM à la secrétaire centrale de Stop Piracy?
J'ai déjà eu contact avec le thème de la 3 de propriété intellectuelle chez USM, parce qu'eux, ils ont aussi des brevets, par exemple, et ils ont aussi laissé protéger des marques, le design et tout ça. Alors, j'ai déjà touché un petit peu le thème. Et chez l'IPI, j'ai organisé les formations pour les marques, pour le design. Et là, j'ai beaucoup appris aussi sur le thème de contrefaçon et ça m'a intéressée. Et quand j'ai entendu que le rôle de la secrétaire centrale s'est libéré, c'est une bonne occasion pour moi de m'engager sur ce thème, sur le problème. Oui.
Alors, qu'est-ce qui vous motive en fait dans cette mission?
Je trouve qu'il est très important d'informer le public parce qu'il doit savoir les risques et les conséquences de la contrefaçon. Parce qu'il faut vraiment savoir que tout qu'on peut faire ou qu'on peut gagner de l'argent est contrefait. Ça veut dire aussi, c'est malgré les conséquences. C'est-à-dire, on peut vraiment trouver des contrefaçons d'une brosse à dents jusqu'à la montre, les lunettes, vraiment tout est contrefait.
Alors, quelle est l'expérience la plus marquante depuis que vous travaillez pour Stop Piracy?
C'est une chose que moi, j'étais vraiment un petit peu choquée lorsqu'une étude qui a montré que plus de 50% des consommateurs qui ont acheté des contrefaçons l'ont fait en connaissance de cause.
Ça veut dire que ce n'était pas des arnaques et que ce sont des personnes qui consciemment ont voulu acheter une contrefaçon en fait.
Oui, et c'est beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup. C'est clair, il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas acheter, qui sont des victimes. Mais l'étude a montré que plus que 50%, ils ont su que c'est une contrefaçon, mais ils l'ont quand même acheté.
À la recherche du peu cher pour essayer d'avoir du mieux, mais en fait, ça peut être une catastrophe.
Oui, peut-être. Oui, c'est clair, c'est pas toujours une catastrophe si on achète une contrefaçon. Parfois, c'est vraiment, on n'a pas bien réfléchi ou comme ça, ou c'est très spontané, c'est aussi clair. Mais souvent, on ne connaissait pas les conséquences.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est le manque d'information des conséquences de ces achats et surtout de ces fabrications, de ces produits qui poussent les gens, en fait, à vouloir acheter. Alors que justement, si on s'y intéresse, on peut évaluer les risques. Et d'ailleurs, c'est la prochaine question. Pour parler un peu chiffres, en 2014, les douanes suisses ont recensé 4 100 000 de francs suisses de produits contrefaits. En 2021, ce chiffre a explosé à presque 47 millions. C'est incroyable. Alors, quels sont les risques pour des particuliers d'acheter de la contrefaçon? Surtout, nous, on va plutôt parler sur le mobilier, bien sûr.
Exactement. Alors, en général, la plupart des cas, les contrefaçons sont des produits de qualité inférieure. Hein. Les fabricants ne se préoccupent pas ni de votre santé, ni de votre sécurité. Aussi, si on achète par exemple des chaises ou quelque chose comme ça, ce n'est pas important. Si c'est ergonomique ou comme ça, l'important c'est de gagner l'argent. Hein. Si on a des contrefaçons comme médicaments ou des utiles, des jouets, des choses comme ça, ça vient encore très très grave. Ouais.
Quelles sont les conséquences du coup maintenant de cette économie que l'on pourrait qualifier de parallèle?
On sait que l'industrie de faux est contrôlée par le crime organisé. On a des études sur ça. Le problème, c'est l'achat de contrefaçons favorise un marché criminel qui ne se soucie ni des conditions de travail ni des emplois. Ils investissent rien dans les recherches, par exemple. Ils investissent rien dans le développement des produits et ils ne payent pas des impôts ou des redevances sociales. Et ça diminue l'économie et les emplois.
Et le crime organisé.
Oui. Ça, souvent, on ne sait pas que c'est derrière. Ça veut dire on a des problèmes avec ça veut dire la criminalité, ce sont les drogues, mais les armes et tout. C'est petit peu comme c'est une mafia derrière.
Tout le monde n'achète pas en fait de la contrefaçon quand même de façon consciente. Il y a quand même 50% des clients de bonne foi et juste se faire avoir. Par exemple, trouver le fauteuil que l'on recherche depuis hyper longtemps à un prix très attractif sur un site, on se dit waouh, quelle aubaine. Mais en fait, c'est une arnaque. Alors, en tant que client, quels sont nos recours?
Première chose, c'est vrai. Souvent, le consommateur est aussi victime d'une contrefaçon. Hein. On ne veut absolument pas dire que c'est tout le monde qui veut acheter des contrefaçons. Mais ça arrive vraiment aussi souvent que nous avons des téléphones, des clients qui nous disent « Écoutez, maintenant j'ai reçu une contrefaçon, qu'est-ce que je peux faire ?» Et dans ce cas, il faut vraiment immédiatement prendre contact avec le revendeur et essayer de l'annuler l'achat. Ça veut dire qu'il faut informer le revendeur de lui retourner la marchandise contre le remboursement du prix d'achat. Parfois, c'est aussi un avocat nécessaire qui vous supporte de ça. Mais, maintenant, je dois vraiment faire un grand mais, parce que si vous avez commandé votre achat à l'étranger, ne le revoyez en aucun cas, parce que l'exportation de contrefaçons est interdite par la loi de notre pays, ça veut dire de la Suisse. C'est pas la même loi dans les autres pays, mais c'est pour la Suisse. Et parfois, c'est vraiment difficile, parce que le revendeur, il dit, écoutez, je vous rembourse le montant, mais vous devez retourner la marchandise. Mais c'est interdit. Et là, il faut voir si vous avez payé la marchandise avec la carte crédit. On peut voir avec la banque que eux, peut-être, ils veulent vous rembourser le montant. Ou parfois, eux, ils voyaient, ou aussi PayPal, par exemple, ils voyaient avec le revendeur. Par exemple, aussi PayPal, ils ont une protection pour les acheteurs. Aussi, pas une bonne idée de revendre le contrefaçon à Suisse parce que c'est aussi interdit.
Alors maintenant, dans quelle mesure, en fait, les marques de grande consommation ont-elles le droit de proposer des produits similaires? Par exemple, si on prend le cas des chaises IMS, on peut en trouver facilement, en fait, dans les magasins plus populaires.
Alors, c'est un petit peu délicat de donner une réponse. On peut protéger le design. Et là, il y a des conditions minimales pour protéger le design, c'est originalité. Ça veut dire qu'il doit avoir une autre impression générale pour laisser protéger une autre meuble ou pour ce qu'on est une contrefaçon, pas une copie. Et concernant de ça, c'est vraiment délicat. Vous pouvez pas. Parfois, c'est protéger une forme, mais pas le matériel. Parfois, c'est protéger la forme et matériel et couleur. Et ça, on sait souvent pas. Alors, c'est pas une bonne idée de changer que par exemple, chez une GS, on fait pas un cuir, on fait un poids ou quelque chose comme ça. Souvent, ça suffit pas parce que c'est à cette époque où c'est protégé.
Donc ça veut dire que même si le droit d'auteur dure 70 ans,
c'est pas le droit d'auteur, c'est le droit de design, parce que tu peux aussi laisser protéger le design et c'est protégé 25 ans. Mais après le droit d'auteur, c'est 70 ans après la mort du designer, exactement.
Donc après 70 ans après la mort du designer, il y a quand même des caractéristiques qui sont protégées.
Il y a quand même des choses qui sont protégées. Ce ne sont par exemple pas les choses techniques. Par exemple, par les meubles USM, c'est une chose. On ne peut pas copier le meuble parce que c'est protégé par le designer. Mais par exemple, les parts techniques, ils sont protégés par brevet. Ça, on peut user. Hein. Bon, concernant tout ça, c'est vraiment délicat et il faut bien s'informer qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Hein. C'est, chaque pièce est une autre protection. Ouais.
Alors, autre question. A-t-on le droit de restaurer un meuble de designer?
C'est un petit peu la même chose que j'ai essayé d'expliquer avant, parce que ça dépend comment est-ce que c'est protégé. Souvent, ils font comme ça. Si tu laisses protéger avec une photo noire et blanc, ils sont automatiquement protégés toutes les couleurs. Si tu laisses seulement protéger un point rouge, un noir comme ça, c'est seulement dans cette couleur. Comme ça, ça je ne peux pas dire exactement. Il faut voir avec un spécialiste de design.
Comment pourrait-on, en trois mots-clés pour les internautes, car en magasin, on peut se poser des questions aux vendeurs, alors que sur Internet, on ne se base que sur des photos. Donc comment on pourrait, en trois mots-clés, déceler une contrefaçon?
Alors, comme vous avez dit, si le prix est correct, il faut vraiment voir un petit, observer, voir un petit peu la planche en détail, parce que souvent, c'est la première chose qu'on voit, c'est le prix. Et si il est modérable, ça veut dire qu'il y a peut-être un 10% de réduction ou comme ça c'est normal, ça peut bien arriver. Mais là, je vous conseille de voir, par exemple, s'il y a une garantie, ça veut dire si on peut retourner la marchandise quand quelque chose n'est pas en ordre, si vous ne trouvez pas une adresse pour la retourner, la marchandise. C'est par exemple seulement écrit « Ah, si vous voulez retourner, écrivez-nous un email ». Il faut déjà se demander pourquoi ils n'ont pas une adresse pour retourner la marchandise. Ou le paiement, si on peut par exemple seulement faire des paiements directs, c'est-à-dire qu'il faut payer d'abord la marchandise et vous n'avez pas l'occasion de payer par le carte de crédit, il faut aussi bien voir ça. Ou une chose, c'est aussi, par exemple, l'évaluation du vendeur. Parfois, il y a aussi des avis. Mais aussi, là, chez les avis, il faut bien voir si... Parce qu'on peut aussi faire des avis contrefaits.
Des faux avis?
Des faux, oui, exactement. Ouais, exact, ouais. Et aussi, une chose, si vous pouvez aussi vite voir, je sais, ça, on n'aime pas. Mais on peut vite voir dans les CGV, parce que souvent là, tu peux lire « Ah, nous vendons des produits plus beaux par cher parce que c'est une réplique ou c'est l'air d'être une chaise ou quelque chose de cette marque. » Et ça, il faut peut-être investir 2-3 minutes.
De très bons conseils.
Oui.
Merci beaucoup, Madame Capol.
De rien. Et tout bon.
Voici la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos comptes Instagram, LinkedIn, Facebook. Il pourrait servir à d'autres et ne pas se faire avoir. Ou plus simplement, nous poser des questions dans les commentaires pour les prochains et voir même, si vous êtes très très sympa, des étoiles pour nous motiver à continuer. Allez, à très vite pour un nouvel épisode du Vrai du Faux.